Amis de RMC, bienvenue After Coupe du Monde spécial Mexique. Une équipe qui manque de stars en 2026, mais qui va jouer à domicile. Ça sera d'ailleurs la troisième Coupe du Monde de l'histoire au Mexique et qui pourra compter sur quelques pépites comme Gilberto Mora.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Aurélien Thiersin.
Amis de RMC, bienvenue. La Coupe du Monde, c'est très bientôt. C'est sur RMC du 11 juin au 19 juillet en intégralité, bien évidemment. On va suivre les Bleus, l'équipe de France au plus près, mais on va vous détailler également les 47 autres nations qualifiées pour cette Coupe du Monde aujourd'hui. Un poids lourd, une nation présente quasi systématiquement à la Coupe du Monde, mais qui manque de grands résultats. Un after spécial Mexique. C'est en vidéo sur After Foot TV, d'ailleurs sur YouTube. On est partout. Comme toujours, les Mexicains donc à domicile en 2026 dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, avec la Corée du Sud et la République tchèque. Est-ce que le Mexique va enfin briller dans une Coupe du Monde? On va en parler avec Ana Cirillo, journaliste mexicaine basée à Paris. Salut Ana.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
On est très pressé pour faire la participation.
J'imagine. Et avec nous depuis le Mexique, on est avec Sébastien Salamonge, joueur de l'Atlético San Luis, qui est en vacances malheureusement puisque son équipe n'est pas qualifiée en Ligue 1. Salut Sébastien.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Allez, After Coupe du Monde spécial Mexique, c'est parti. Bon, c'est une musique qui te parle peut-être, Ana. Mexico 86, un des jingles de la Coupe du Monde 86. Il y a également la Coupe du Monde 70. C'est donc la troisième fois que le Mexique va recevoir la Coupe du Monde. Alors, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est dans une période relativement rapprochée. C'est rare de recevoir la Coupe du Monde autant de fois à domicile. C'est quoi le sentiment qui règne au Mexique aujourd'hui, à quelques semaines, là on enregistre le 1er mai, à quelques semaines d'accueillir cette Coupe du Monde?
Premièrement, je peux te dire que les Mexicains, on est très contents de recevoir la Coupe du Monde à la maison. Et tout le monde sait que le Mexique, c'est un pays très passionné pour le football. On mangeait football, on regardait tout le temps football. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour démontrer que le Mexique, c'est plus qu'un pays dangereux.
Et que les Mexicains... On va en parler d'ailleurs des problèmes de violence qu'on a vus ces derniers temps.
Que les Mexicains sont très accueillants et on est prêts.
Sébastien, forcément, moi je suis un tout petit peu jeune pour l'avoir connu, toi aussi, mais les Coupes du Monde 70 et 86, alors la Coupe du Monde 70 c'est le troisième sacre de Pelé, la Coupe du Monde 86 c'est la main de Dieu, c'est le sacre de l'Argentine avec Diego Maradona, on voit la lumière du stade de Guadalajara, j'imagine que ce sont des images qui te parlent toi aussi comme passionné de football.
Oui, clairement. Je crois qu'on a tous grandi avec ces images, même si on n'était pas de cette génération. On a vu ces grandes coupes du monde. Voilà toute l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Je pense que c'était quelque chose de fantastique et j'espère que ça sera une très belle Coupe du Monde cette année aussi. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus moins belle ou quoi que ce soit, donc je pense que ça sera fantastique une fois de plus.
Alors, on parlera aussi du parcours du Mexique en Coupe du Monde depuis le début de l'histoire. D'ailleurs, ses meilleurs résultats, c'est deux fois quart de finaliste et à chaque fois, c'était à domicile en 70 et 86. Donc, ça nourrit aussi peut-être les espoirs des Mexicains avant cette Coupe du Monde 2026. Mais d'abord, on va parler des villes hôtes, des stades hôtes de cette Coupe du Monde. Il y a l'Estadio BBVA de Monterrey, 53 000 places, le club du CF Monterrey. L'Estadio Akron de Guadalajara, 48 000 places, donc du club de la ville. Et puis, l'Estadio Azteca de Mexico. Lui, c'est le plus grand, hein, 87 500 places. Il a été rénové il y a 10 ans. Il a accueilli les deux finales, donc de 70 et 86, Brésil-Italie en 70, Argentine RFA en 86. C'est aussi le stade du Club América et de Cruz Azul. Seb, est-ce que tu as déjà joué dans ces stades-là et est-ce que tu peux nous les décrire? Est-ce qu'ils sont impressionnants?
Alors oui, j'ai la chance de pouvoir y jouer depuis 3 ans dans ces différents stades. Écoute, ces trois stades, ce sont pour moi les plus jolis du Mexique, les plus grands, les plus avec une très belle ambiance aussi. Bon, l'Azteca évidemment parce que il est gigantesque, hein. Quand tu rentres, c'est vraiment exceptionnel et puis il y a toute une histoire autour de ce stade qui a une histoire fantastique. Ensuite, Monterrey, c'est beaucoup plus récent, mais il est tout aussi beau. Voilà, avec la montagne juste derrière, c'est juste incroyable.
Et c'est pas le
Et
stade
celui
de
de
Gignac,
Chivas.
hein. Les Tigresses de Monterrey, ils jouent dans un autre stade. Ça, c'est le
Non.
CF Monterrey ici, dans ce stade-là.
C'est ça, exactement. Ça, c'est les Rayados où il y avait notamment Sergio Ramos. Et ensuite, celui de Chivas à Guadalajara aussi, qui est très récent et qui est, voilà, fantastique aussi, avec une très belle affiche, avec des très grands supporters.
Ah oui, bah ça aussi on attend cette ambiance-là. Anna, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance d'un match de football au Mexique? Alors maintenant en France, pardon pour ma voix, hein, je l'ai perdu hier pendant un match, je préfère prévenir tout le monde. L'ambiance au Mexique, on la connaît un petit peu avec Dédé Gignac, hein, qui joue au Tigres depuis longtemps maintenant, donc depuis la France, on peut voir ces ambiances de plus près, mais est-ce que tu peux nous décrire à quoi on va devoir s'attendre dans les tribunes des stades mexicains?
Je pense que, comme je t'ai dit avant, les supporters mexicains, ils sont fous pour le football. Et n'importe s'il y a des mauvais résultats ou des bons résultats, ils vont supporter tout le temps à la sélection du Mexique. Et je pense que peut-être à la sélection d'Amérique latine, par exemple la Colombie, il va jouer à la ville de Mexico. Et c'est vraiment en fait. C'est vraiment en fait, il va voir des personnes partout, avec la fête, avec les supporters. Et je pense que ça sera une bonne Coupe du Monde
Et on
pour
est
tous
très
les.
impatient, déjà très
Oui.
impatient de voir les matchs de la Coupe du Monde. C'est parce qu'il n'y en a que 13, entre guillemets, puisque c'est une Coupe du Monde co-organisée avec le Canada
Ouais.
et les États-Unis. Seulement 13 matchs
Ouais.
avec un huitième de finale. J'imagine que c'est peut-être une petite déception, surtout vu les relations avec les États-Unis de Donald Trump. Est-ce que ça, c'est un débat au pays, au Mexique, ça?
Oui, mais quand même, ce sont 13 seulement matchs et on est très, très content parce
Ça
que
suffit au bonheur des Mexicains.
ça suffit, on voulait plus, mais bon, c'est suffisant et tout le monde travaille déjà pour faire les meilleurs pour les supporters mexicains et les supporters étrangers.
Alors, tu parlais tout à l'heure de donner une autre image du Mexique, parce qu'on a vu récemment des violences avec les cartels, la police qui doit intervenir, voire l'armée. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur place? J'ai vu que la fédération et le pays, forcément, garantissent la sécurité des visiteurs et des joueurs, mais quelle est la situation sur place, Anna?
Maintenant, après les défis de sécurité, surtout dans la ville de Guadalajara, le gouvernement a fait un gros planning. Je peux te dire qu'il va avoir plus de 100 000 agences de sécurité.
100 000, c'est ça?
100 000,
Ouais.
oui, pour la Coupe du Monde. Et aussi, à la fin de 2025, 35 militaires américains, ils sont arrivés au Mexique pour faire des formations. Précisément, c'était 1er mai et c'est fini ce programme. C'est surtout des protocoles, c'est comment gérer tout ça. Et vraiment, le gouvernement du Mexique, il a fait des efforts pour renforcer la sécurité, surtout dans les trois villes. Les trois villes, oui.
J'imagine. Sébastien, toi qui vis là-bas depuis 3 ans, est-ce que la sécurité est un problème pour toi au Mexique?
Alors, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est très tranquille. Après, bien sûr, il y a eu des épisodes, ça, on ne va pas se le cacher. Mais c'était très localisé, voilà, sur une certaine région, notamment de Jalisco. Mais voilà, pour tout ce qui est du reste du pays, franchement, c'est relativement calme et on se sent en grande sécurité.
Bon, on va espérer
J'espère
effectivement qu'il n'y ait pas
que tout
de
le
soucis
monde.
particuliers, hein, de toute façon, pendant cette Coupe du Monde, évidemment.
Exactement.
On va parler du passé de cette équipe mexicaine dans cette Coupe du Monde. Je le disais, un pays quasi systématiquement présent au Mondial, 18e participation. Alors c'est énorme, hein, c'est le quatrième meilleur bilan de tous les pays du monde, à égalité avec l'Italie, derrière le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine. Est-ce que c'est une fierté, ça, déjà, Anna, depuis le Mexique, d'être présent quasiment tout le temps à la Coupe du Monde?
Oui, on a travaillé beaucoup, surtout dans la sélection de l'avenir. Et on pense que cette Coupe du Monde, il va être spécial. Et après, je crois qu'on va parler de ça. Mais j'espère qu'on va arriver à jouer les cinquièmes matchs.
Ah oui, parce que
Et
le meilleur résultat du Mexique, c'est donc un quart
voilà.
de finale. en 70 et en 86 à chaque fois à domicile. Mais il y a un plafond de verre quand même depuis 30 ans. Ce sont les huitièmes de finale. Il y en a eu 7 d'affilée entre 1994 et 2018. Élimination même au premier tour en 2022. Donc on peut dire que c'est une sélection qui n'a pas spécifiquement brillé en Coupe du Monde. Il n'y a pas un résultat exceptionnel malgré ses 18 participations.
Oui, c'est ça. Et je pense que la sélection mexicaine, il doit être très concentré parce qu'il y a beaucoup de problèmes de la mentalité. Mais je pense qu'avec les supporters et joueurs à domicile, et la sélection peut arriver à cet objectif.
Ouais, Sébastien, toi qui connais bien donc le Mexique et les Mexicains, il y a quand même pas mal de joueurs qui évoluent en Liga MX. Est-ce qu'il y a un problème de mentalité, peut-être de gagnant pour toi au Mexique? Est-ce qu'on se repose sur ses acquis, peut-être? Je ne sais pas.
Là où je rejoins Anna, c'est que je pense que le fait de jouer à domicile, ça va vraiment les pousser. Ça sera beaucoup plus facile pour qu'ils se motivent que quand ils jouent dans d'autres pays, je veux dire, sur les Coupes du Monde. Après, de gagnant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème de mentalité, mais oui, on sent qu'il y a quand même un gap par rapport aux pays européens, surtout sur les derniers matchs des phases finales, on sent qu'il y a quand même une différence, oui.
Et le Mexique, Anna, c'est un mastodonte de la zone CONCACAF d'Amérique du Nord. En Gold Cup, qui est donc la compétition continentale, on va dire, depuis 2009, tu as gagné 9 fois la compétition. Pardon, 6 victoires sur 9 fois la compétition, une finale, 2 demi-finales. Est-ce que c'est difficile de progresser finalement dans un contexte un peu trop favorable? Est-ce qu'il n'y a pas de discussion? On a vu l'Australie par exemple rejoindre l'Asie. Est-ce que le Mexique ne pourrait pas rejoindre la CONMEBOL pour progresser auprès du Brésil ou de l'Argentine? Est-ce que c'est une réflexion pour le football mexicain?
Oui, ça c'est un problème aussi dans l'actualité. Et bien sûr, le niveau de la CONCACAF Champions. C'est un niveau pas très haut pour les sélections, comme le Mexique. On a discuté ça il y a longtemps pour retourner peut-être à la CONMEBOL. Mais c'est aussi un problème de l'argent, de tout ça. Et chaque fois, on parlait beaucoup de cette situation, mais pour l'instant, on n'a pas retourné à la CONMEBOL, mais ça sera très bon pour les nouveaux de la sélection mexicaine.
Ah ben, j'imagine, oui, parce que l'objectif, c'est de continuer à grandir et de briller dans cette Coupe du Monde 2026. Et on va analyser justement cette équipe, son coach Javier Aguirre et les joueurs qui composent cette sélection mexicaine. Sur RMC, donc, cette after Coupe du Monde spéciale Mexique. Et le Mexique est emmené par un homme, Javier Aguirre. Anna, il est en place depuis le 23 juillet 2024. Mais c'est surtout son troisième passage sur le banc du Mexique parce qu'il a déjà été là en 2001-2002 et en 2009-2010. Il a gagné 2 fois la Gold Cup, 1 fois la Ligue des Nations CONCACAF. Mais alors, pourquoi dans un si grand pays de football, on est obligé de rappeler un homme qui a un palmarès quand même assez maigre finalement? Il a entraîné notamment en Liga, il a entraîné à l'Atlético de Madrid, mais entre 2006 et 2009, à Saragosse, à l'Espagnol Barcelone. C'est pas une immense carrière de coach. Pourquoi il revient à chaque fois sur le banc du Mexicana?
Je pense que Javier Aguirre, c'est un entraîneur très spécial au Mexique. Il a le courage, il connaît bien la sélection mexicaine depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il revient à chaque fois. Et maintenant, il est un peu, il est pas très très content avec les joueurs parce que chaque fois il changeait de joueur pour faire un annonce initiale. Mais il connaît surtout comment ça marche l'équipe, comment pour faire.
Il est apprécié par le peuple mexicain, par la population.
Ouais, il est pas apprécié maintenant beaucoup.
Il y a des critiques.
Ouais, il y a des critiques partout parce que on n'est pas très content avec la sélection mexicaine. C'est pas une sélection qui donnait pas beaucoup d'espoir parce qu'on n'a pas un superstar, on n'a pas.
On en parlera justement.
Oui, on parlera aussi. Et voilà, c'est pour ça. Mais c'est en vérité que Javier Aguirre, il a beaucoup l'expérience. Il a joué déjà en Europe et tout ça, c'est pour ça.
Il a également été sélectionneur du Japon et de l'Égypte, mais très brièvement, Sébastien. Alors, tu ne l'as jamais croisé, je crois, en championnat, parce qu'il a entraîné Monterrey, mais c'était juste avant que tu arrives à l'Atlético San Luis. Mais toi, depuis le Mexique, quels sont les bruits, la vision que tu as de Javier Aguirre?
Oui, mais je pense qu'il a cette expérience, voilà, et comme il y a une très forte pression sur la sélection ici au pays, il sait gérer ça, il sait manejarlo, vous savez, tu sais, il sait bien
C'est un manager, quoi.
le gérer. Ouais, voilà, et il a une communication aussi assez importante, donc voilà, il a cette expérience-là. Après, voilà, au niveau football, c'est vrai qu'il a été très tatillon ces derniers temps. Il a beaucoup changé de joueur. Il a convoqué énormément de joueurs pour tous les voir et essayer de sortir un 11 initial, comme l'a dit Anna. Mais voilà, je pense qu'il est là pour grâce à son expérience et de la sélection et du pays.
Et Anna aussi, j'ai regardé depuis l'an 2000, depuis l'année 2000, il y a eu 22 changements de sélectionneurs à la tête du Mexique. C'est une instabilité assez incroyable et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce fameux plafond de verre et que c'est difficile de faire progresser cette équipe nationale du Mexique.
Oui, ça c'est le
Pourquoi c'est
grand
dur de
problème.
rester à la tête du Mexique?
Parce que, comme je te dis, il n'y a pas de joueurs leaders, des joueurs qui ont beaucoup de régularité, même les joueurs qui jouaient en Europe, par exemple Santiago Jiménez ou Raúl Jiménez, ils jouaient beaucoup, parfois ils sont blessés, parfois ils reviennent à la titularité. Alors, c'est pour ça. Et Javier Aguirre, c'est un entraîneur qu'il aime bien changer tout le temps dans toute la position. Parfois, Raúl Jiménez et Santiago Jiménez jouaient ensemble, parfois non. Et alors, pour ça, les supporters mexicains, ils s'en doutent beaucoup de la sélection mexicaine.
Ouais, j'imagine, on va en parler de Raúl Jiménez, qui est donc aujourd'hui la star de la sélection, mais il a déjà 34 ans. Alors, 125 sélections, 44 buts. C'est le meilleur buteur en activité, mais le troisième de l'histoire derrière Javier Hernández, Chicharito et Jared Borghetti. Il joue aujourd'hui à Fulham. C'est un attaquant solide de Première Ligue. Il a encore marqué sa dizaine de buts avec Fulham. Il a réussi à Wolverhampton aussi. Mais Sébastien Salamonge, on rappelle, un joueur de l'Atlético San Luis. C'est vrai que ce n'est pas une star qui brille dans un très grand club européen. Donc c'est assez étonnant pour un si grand pays de football. Toi, quelle image tu as de Raúl Jiménez, ce buteur de Fulham?
Ah oui, c'est un joueur très solide qui a une grande carrière malgré tout. Voilà, il est consistant et puis chaque année, il marque, comme tu l'as dit, 10-15 buts. Donc c'est quand même consistant. Après, c'est sûr qu'on pourrait s'attendre à avoir une ou deux très grandes stars internationales pour le grand pays qui est le Mexique en termes de population et en termes de superficie et en termes de pays de football, non? Comme peut l'être, je ne sais pas, le Brésil ou bien l'Argentine. Voilà, il y a Santi Jiménez aussi qui fait une très belle carrière. Après, il est un peu gêné par les blessures. Je sais pas, faut voir. Ici aussi, ils continuent de sortir toujours des très grands talents, mais c'est
Il n'y
vrai
en
que
a pas
sur la durée, ça
tellement qui
donne
vont
pas
vers l'Europe
les
finalement,
grandes
Sébastien,
stars.
parce que les conditions en Liga MX sont plutôt bonnes. C'est pour ça que généralement les joueurs mexicains n'ont pas une volonté absolue de partir pour partir. C'est très bien de jouer dans la Liga MX en fait.
Oui, c'est ça. La Liga, elle est compétitive et puis. Et puis on s'y sent bien là. C'est vrai qu'il y a des grands stades, il y a une très grande il y a une très grande ambiance aussi. Voilà, après il y a eu quand même Chicharito qui est parti, il y a eu Rafa Márquez aussi qui ont fait des très grandes carrières en Europe. Et on pourrait être en droit de s'attendre à ce que le pays sorte des joueurs comme ça qui au vu de la masse de joueurs qu'ils arrivent à sortir. Pour faire des grandes carrières, notamment en Europe, et puis être solide, avec la sélection nationale.
Ben, c'est ce que tu m'as dit, Anna, en préparant l'émission. Il n'y a plus de Rafa Márquez, Chicharito, c'est fini. Même des joueurs comme Andrés Guardado, qui a énormément de sélections, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. Alors, les leaders, ben, ça sera Raúl Jiménez et ce sera même Memo Ochoa qui va disputer sa sixième Coupe du Monde. Il a 40 ans, il est quasiment remplaçant à Limassol, à Chypre. C'est en même temps beau et en même temps inquiétant pour la sélection mexicaine, Anna.
Oui, je t'ai dit avant, Memo Ochoa, il a beaucoup d'expérience, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de footballeurs jeunes qui bien sûr, ils méritaient l'opportunité. Au Mexique, on parlait beaucoup de si son participation, si sa participation, c'est un petit cadeau de Javier Aguirre pour arriver à son sixième mondial comme Messi, comme Messi ou Ronaldo. Parce que vraiment, je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup parce qu'il n'est pas très régulière dans la Ligue de Chypre. Et voilà, c'est pour ça, c'est un peu bizarre qu'il va participer à cette Coupe du Monde, mais quand même, il a l'expérience, il peut être un leader et il peut supporter les autres joueurs.
Bon, là, on a parlé des cadres de cette équipe qui sont un peu vieillissants. On va parler des jeunes et de la jeunesse. Et il y a notamment Obed Vargas, qui est un milieu de terrain alors né en Alaska, qui a d'abord été dans les sélections de jeunes américaines et qui a ensuite choisi le Mexique, puisqu'il a des origines mexicaines. Il a joué notamment au Seattle Sounders au départ et il joue aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Est-ce que tu peux nous dévoiler son profil ? Il a 20 ans. C'est un milieu de terrain. Est-ce que tu crois en Obed Vargas pour redonner un peu de peps au milieu de terrain mexicain ?
Oui, je pense que Obed Vargas, il peut donner un petit surprise parce que il connaît déjà les joueurs en Europe. Il connaît déjà comment ça arrive et je pense qu'il peut gérer la pression. Et pour ça, je pense qu'il va à donner de beaucoup.
Mais il ne joue pas beaucoup à l'Atlético de Madrid. Non, pour l'instant, le Cholo Simeone ne lui fait pas trop confiance. Mais donc, expérience en MLS, hein, 130 matchs avec les Seattle Sounders. Il a gagné la Ligue des Champions CONCACAF. C'est un joueur qui a commencé très tôt aussi. Hein. Tu penses qu'il peut représenter une valeur sûre quand même dans ce Mexique 2026 ou il va plutôt commencer sur le banc de touche ?
Je pense qu'il va plutôt commencer.
Titulaire ?
Oui, mais il faut regarder comment s'est passé l'alignation, les 11 initiales. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'expérience pour gérer surtout la pression.
Il a déjà beaucoup de matchs. Alors, on a dû choisir entre les deux pépites du Mexique, entre guillemets. Sébastien, toi, tu connais peut-être plus Gilberto Mora, 17 ans, qui joue au club Tijuana. Il a 5 sélections avec l'équipe A. Il a surtout brillé avec la sélection des moins de 20 ans. Malheureusement, blessé une longue partie de la saison à cause d'une pubalgie. Seb, est-ce que tu l'as croisé sur les terrains ? Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ses qualités de percussion ?
Ah oui, c'est un très grand talent. Voilà, il joue ailier. Il peut jouer aussi sous l'attaquant, je crois. Il a une très grande technique. Puis surtout sa maturité pour son âge, c'est assez bluffant sur le terrain. Il joue très juste déjà. Il a cette maturité pour déjà terminer toutes les actions. Il a déjà marqué pas mal de buts, pas mal de passes décisives, donc c'est vraiment un joueur important pour son club en premier Tijuana. Et puis après, il a tout explosé avec la sélection des jeunes. Donc il y a beaucoup d'attentes. Ça va être assez intéressant de voir comment la pression aussi va jouer, parce qu'il y a une énorme pression sur lui au niveau médiatique ici. Ou quand il a commencé à rentrer avec l'équipe A, ben on parlait que de lui.
Mais il est très très jeune, hein, 17 ans, on le rappelle, hein, Seb. Hein, c'est pour ça, c'est un petit peu le Messi voilà. Local en fait, finalement, pour les supporters.
Ouais, il a un gros buzz, oui, cette année. Donc, faut voir avec la pression sur un si jeune joueur, voilà, que ça l'inhibe pas trop et qu'il puisse continuer à s'exprimer de cette manière-là, parce que c'est un très grand talent.
Bon, Anna, quand on regarde le reste de l'effectif du Mexique, alors on a parlé du gardien Ochoa qui ne devrait pas commencer comme titulaire, ce sera plutôt Raúl Rangel. Je le prononce à la française, j'essaye en tout cas. Quand tu regardes le reste de l'effectif, il y a le capitaine César Montes qui évolue en Russie au Lokomotiv Moscou, alors qui est très grand, 1m95, qui a joué notamment en Liga à l'Espagnol Barcelone. Tu as Israël Reyes qui est un latéral solide aussi du Club América. Eric Lira qui est un récupérateur de Cruz Azul. Brian Gutierrez qui est lui aussi un Américain de naissance formé à Chicago qui joue aujourd'hui au Chivas. Alvaro Fidalgo qui joue en Liga au Betis Séville. Encore une fois, des joueurs solides, costauds, pas de stars, pas de joueurs qui émergent comme ça au très haut niveau. Mais cet effectif, tu le qualifierais comment ? Et d'ailleurs, si tu peux regarder sur les images, est-ce que selon toi, c'est le 11 qui pourrait commencer en incluant peut-être Obed Vargas ou Gilberto Mora ?
Oui, je pense que ça, c'est une bonne alignation. pour plutôt commencer la Coupe du Monde. Mais Javier Aguirre, il a dit qu'il va changer, dépend les rivaux. Les rivaux. Parce que Sud-Africa et Corée du Sud et République tchèque, c'est différent, les rimes de jeu et tout ça. Mais je pense que plutôt ça, c'est la base pour avoir les cinquième match. Que ça, c'est les vrais objectifs.
Bah, on va en parler, Mexique. Évidemment. Donc, l'objectif, c'est un quart de finale.
Quart de finale.
Aller jusqu'en quart de finale. Et il y aura, ironie de l'histoire, un Mexique-Afrique du Sud en ouverture, ce qui est également le match d'ouverture de 2010, ouais. Dans le sens inverse, avec la fameuse frappe de Chibalala. Tu auras ensuite Mexique-Corée du Sud à Guadalajara et République tchèque-Mexique, de nouveau à Mexico, comme le match d'ouverture. Sébastien, toi qui es sur place avec... tu vis l'attente au pays d'accueillir cette Coupe du Monde. Avec l'effectif qu'on vient de développer, est-ce que tu les vois sérieusement et sincèrement réussir à se qualifier pour un nouveau quart de finale à domicile ?
Ah oui, moi je pense qu'ils peuvent largement sortir des poules. Après, ça sera plus dans l'image à élimination directe que ça pourra être un peu plus compliqué, mais ils peuvent et ils se doivent de sortir de cette poule en jouant à... Les trois matchs à domicile comme ça, il faut absolument qu'ils le fassent parce qu'ils ont de la qualité et ils sont vraiment capables de le faire. Il faut vraiment que le fait de jouer à domicile, ça les pousse et que ça donne ce push de qualité dans le jeu et le surpassement de soi.
Et Anna, justement, le mot de la fin sur les ambitions du Mexique. Il y a eu quand même pas mal de matchs amicaux puisque tu es qualifié d'office grâce à cette position de pays hôte. Il y a notamment eu le Portugal et la Belgique parmi ses adversaires. C'est une équipe relativement solide. Il va falloir quand même être porté par le public et l'ambiance pour faire mieux et battre des grosses nations européennes et sud-américaines.
Oui, je pense que tout, l'ambiance, les supporters... Tout sera une motivation.
T'es confiante pour
oui,
vraiment
je suis confiante.
Une élimination en 16e ou en 8e de finale, ce serait vécu comme une catastrophe au pays?
Oui, c'est une catastrophe, surtout si tu jouais à domicile. Mais on voulait penser qu'on va arriver à les 5e.
Malgré l'élimination au premier tour en 2022, qui, on le rappelle, ouais, est un des plus mauvais résultats finalement de l'histoire du Mexique.
Oui, c'est ça, mais on n'a pas peur l'espoir pour cette sélection mexicaine.
Bon, c'est le plus important. Merci beaucoup, Anna Cirillo,
merci.
D'avoir parlé de cette sélection du Mexique. Merci beaucoup à Sébastien Salamonge, milieu de terrain de l'Atlético San Luis, ancien milieu de terrain du Sporting Club de Bastia. Merci beaucoup, Seb, qui est en vacances, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. À très bientôt pour vivre donc cette Coupe du Monde sur RMC du 11 juin au 19 juillet. Il y aura un épisode par nation qualifiée à cette Coupe du Monde. Ciao, les amis.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.